Philippe Le Goff, maire de Guingamp depuis 2014. J'étais adjoint sur la mandature 2008-2014. Et par ailleurs, je suis enseignant d'éducation physique sur Lannion. Je suis quelqu'un qui a grandi à Guingamp, puisque je suis arrivé ici en CP. Et j'ai suivi toute ma scolarité jusqu'au bac avant de quitter pour Rennes. Et puis m'expatrier quelques années dans le nord de la France et puis pour y revenir il y a maintenant une vingtaine d'années et occuper cet engagement politique.
Un engagement politique dans lequel le patrimoine a une place particulière. Vous pouvez me présenter ce patrimoine dans la ville de Guingamp?
Alors effectivement, il fait intimement place dans la ville de Guingamp. On parle d'un patrimoine qui serait son ADN, bien entendu, puisque Guingamp était une des grandes places fortifiées de Bretagne, une des plus, pratiquement dans le trio, hein, il y a au XVIe siècle. Un patrimoine qui est important parce que c'est une ville historique qui fait que ben, il y a eu de la construction en pierre, il y a eu ces éléments-là, la réutilisation des pierres de l'arasement du château qui a fait qu'on a eu une présence très forte des couvents, d'une basilique, d'une véritable histoire en fin de compte patrimoniale. Mais et ça a été surtout, pour moi, lorsque je suis devenu maire, confronté notamment à la question de la dévitalisation, en fin de compte, d'une ville, une volonté de considérer que le patrimoine, par sa rénovation, par sa remise en lumière, était une possibilité de réinjecter les gens dans la carte postale et de faire en sorte que cet environnement différent, cet environnement authentique, cet environnement historique, puisse demain, après-demain, être un vrai catalyseur pour venir s'installer sur la collectivité, pour faire qu'elle vive, qu'elle ait son empreinte singulière. Donc aujourd'hui, le patrimoine, il est à la fois cette histoire et puis il est le levier qui raconte des opportunités pour demain, parce qu'il parle de sensibilité par essence.
Et à Guingamp, il y a peut-être une particularité, c'est que beaucoup de ces éléments patrimoniaux servent. Sont des édifices publics.
Complètement, et on y reviendra certainement sur la prison, c'est bien entendu la question de la fonctionnalité du patrimoine. C'est-à-dire qu'un patrimoine qui resterait quelque chose que l'on regarde avec une manière romantique, c'est pas le patrimoine dont on s'approprie. Donc il y a cette volonté, à chaque fois qu'on travaille sur un patrimoine, d'essayer de trouver une fonction. Et c'est vrai que la force publique, la force d'une ville-centre, c'est aussi de délivrer des services. C'est de délivrer effectivement celui d'une mairie, mais celui d'une école, celui d'un tribunal, celui de tout ce qui était lié, en fin de compte, à une place qui jouait des fonctions de centralité. Donc le patrimoine en tant que public, fonction publique, est très impliqué, très imprégné dans la géographie de la collectivité.
Et du coup, vous pourriez nous donner les quelques exemples principaux de ces bâtiments publics qui sont patrimoniaux en même temps?
Ben, la mairie, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui était le couvent des Augustines. On va parler effectivement du couvent des Ursulines, qui est aujourd'hui le siège de l'agglomération. Mais on ne va pas oublier le siège de l'UCO, qui était en fin de compte l'espace de garnison de la ville de Guingamp, où beaucoup de Bretons sont venus pratiquer leurs 3 jours, et qui sont aussi un temps historique. On peut en citer également l'espace Saint-Léonard, qui est devenu une école. On a autant de places comme ça. J'en oublie beaucoup. Et la prison qui en fait également partie.
Et du coup, Guingamp est une petite cité de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire?
En forme de jeu de mots, j'ai envie de dire c'est une cité qui a du caractère. D'abord, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est une cité qui raconte une histoire. Une histoire qui est forte, qui est intimement liée, effectivement, aussi à un patrimoine, un plan d'alignement, par exemple, que l'on a sur la place du centre napoléonien, qui permet de retracer des dates de construction, des modes de construction aussi qui ont pu évoluer, mais avec un plan d'alignement qui permet d'avoir cette lisibilité-là. Et puis, petite cité de caractère, c'est un réseau. C'est un réseau dans lequel on a lutté pour s'inscrire parce qu'on faisait partie quelque part de ces plus grandes collectivités qui voulaient intégrer ce réseau, tout simplement parce que c'est une vraie dynamique. Et c'est une dynamique qui va en congruence avec la lecture politique qu'on pouvait avoir de la force du patrimoine comme étant un vecteur de développement. Les petites cités de caractère y sont rentrées notamment par la question du tourisme, la question effectivement de réhabiliter et de donner une lecture au tourisme. Je pense qu'on a voulu s'inscrire là-dedans en allant encore plus loin et en se disant que au-delà de la fonction touristique, c'est une fonction d'une ville, d'une qualité de ville, d'une qualité de vie et d'une vie qui raconte autre chose. Et à travers ça, les petites cités de caractère sont pour nous un aboutissement aussi, j'ai envie de dire, philosophique par rapport à cette dimension du patrimoine.
Et dans ce patrimoine, il y a un patrimoine particulier, la prison. C'est un patrimoine comme un autre, une prison désaffectée.
C'est un patrimoine certainement comme un autre, mais c'est aussi un patrimoine très différent des autres. Pour la bonne et simple raison que c'est, une architecture fonctionnelle. Une prison, c'est particulier. Et un des facteurs différenciants de cette prison, c'est qu'on vient y mêler réellement cette architecture fonctionnelle avec un esthétisme très fort, très marqué, très particulier. Et puis, bien entendu, c'est un patrimoine qui raconte une histoire qui est une histoire cachée, c'est celle qu'on ne connaît pas souvent. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs? On parle de prisonniers, oui. Et puis, c'est un point d'étape, c'est-à-dire que cette prison, elle vient s'inscrire dans une vision idéologique, dans une lecture humanisme. Et donc, c'est toute cette histoire très particulière qui fait de cet objet, à la fois un objet mystérieux, un objet qui est un révélateur de pensée et un objet qui aujourd'hui fascine aussi par son esthétisme et par les fonctions qu'il a remplies. Donc oui, c'est quelque chose, quand on le prend en tant que tel, en tant qu'entité, qui est très singulier, qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs.
Et pendant longtemps, du coup, elle a été un peu comme un fantôme dans la ville, fermée en 1952. Vous qui êtes guingampais, quels en sont vos premiers souvenirs?
Effectivement, moi je parle d'une la belle endormie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était ce patrimoine qui, caché derrière les murs, était peu connu et pas connu du tout. Alors, ma première connaissance de la prison, ou ma première relation avec la prison, pour rien vous cacher, elle est particulière. Mon papa, mon père, était notamment directeur des services ici à la ville de Guingamp. Et un jour, les murs de la prison se sont écroulés sous quatre voitures qui étaient là. Personne ne savait effectivement s'il y avait des gens qui étaient sous les voitures. Et quelque part, mon premier souvenir, c'est l'effondrement d'un de ces pans de mur. Et ce qui m'avait fait aller avec lui ensuite, voir à la fois découvrir le site, mais découvrir en fin de compte le risque qui avait été encouru par un patrimoine qui venait de s'écrouler et qui avait pu menacer, notamment, là, il n'y avait que des véhicules, et heureusement, mais qui pouvait être aussi une source de danger lorsqu'il n'était pas entretenu. Donc, première approche assez... assez unique, j'ai envie de dire, par rapport à cette prison.
Et ce danger, du coup, il représente aussi un des points du débat, et notamment des difficultés et des oppositions qui ont été qui ont dû être dépassées. Ça a été long, ça a été un peu compliqué.
Ouais, ça a été long, ça a été compliqué, ça a été polémique, ça a été effectivement un jeu de posture. Parce qu'on l'a dit, déjà c'est quelque chose qui est caché. Donc parler d'un projet sur un édifice qui est caché, c'est toujours beaucoup plus compliqué à expliquer. La deuxième chose, c'était effectivement l'ampleur des travaux qui s'y trouvaient, parce que c'était un patrimoine qui, globalement, n'avait pas été entretenu depuis plus d'un siècle, et il fallait mener effectivement des travaux très, très conséquents. Et puis, le débat, c'était également comment restaurer ce patrimoine et comment lui donner du sens. C'est-à-dire qu'on avait, au-delà de l'envie de lui restaurer, l'envie de faire en sorte qu'on y vienne pour des fonctionnalités. Et ça, c'était un vrai défi. C'est-à-dire se dire, oui, on va restaurer des murs pour ne pas qu'ils tombent, mais surtout, on va faire en sorte que les concitoyennes et concitoyens y viennent pour autre chose, comme on vient à la mairie pour faire une carte d'identité et on vient dans un couvent. Et ben, l'idée, c'était de se dire, on va dans la prison pour la visiter, certes, mais aussi parce que elle va répondre à telle ou telle fonction. Donc c'est vrai que ça a été un débat qui était marquant. Le montant, en fin de compte aussi, des travaux à réaliser, on était sur des montants in fine qui étaient de 8 millions d'euros et qui faisaient un peu peur à tout le monde. Et c'était là où il fallait passer le cap, avoir le courage de se dire qu'on était capable de porter des projets d'une autre ampleur. C'est un peu aussi ce qui peut faire la force de Guingamp, mais c'est aussi et certainement ce qu'il a fallu faire, c'est-à-dire ne pas s'auto-censurer comme on le fait souvent dans les petits territoires. Et c'était aussi des points qui étaient des points de clivage en se disant, si vous entrez dans un projet comme celui-là, vous allez mettre à mal l'ensemble des finances de la collectivité. Demain, ça n'aura pas de sens et ça ne sera pas ce que vous dites. Alors qu'on portait effectivement l'idée de fonction, l'idée aussi d'un fer de lance touristique, un fer de lance de lecture aussi d'une collectivité. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la particularité d'un débat politique comme celui-là, c'est qu'effectivement, il clive, il permet d'étayer les arguments, il permet aussi, globalement, de l'amener sur place publique. Et c'est une force aussi du débat qui, quelque part, vient infuser là-dessus la démocratie. C'était un sujet sur lequel moi je suis resté convaincu et je ne suis pas rentré dans une démagogie par exemple sur des élections en affirmant toujours ce projet comme étant quelque chose auquel je tenais et sur lequel on irait jusqu'à l'aboutissement. In fine, au fur et à mesure et surtout, à partir du moment où on a pu ouvrir les portes, après une phase 1 et 2 qui ont permis cette restauration, dès qu'on a donné lecture aux concitoyennes et aux concitoyens de ce qu'il y avait à l'intérieur, bien entendu, j'ai envie de dire le joyau s'est réveillé et s'est révélé. Et donc, le sentiment, quelque part, d'appartenance, de conjugaison avec le projet est devenu beaucoup plus facile.
Donc en 2014, dans quelle situation est la prison ? Quelles décisions ont été prises ? Qu'est-ce qui reste à prendre encore avant l'ouverture du centre d'art Grinzegal ?
Alors en 2014, il y a un travail sur les plans. On est passé de l'APS à l'APD. On a la possibilité effectivement réellement de transformer l'essai, de lancer les travaux. Donc là, ça veut dire d'inscrire budgétairement la réalité. Et puis on a surtout la question qui est de dépasser la dimension de la restauration pour aller sur la dimension de la fonctionnalité autre et qui est celle de donner une fonction de centre d'art visuel à la prison et notamment à une association qui est l'association Grinzegal. L'association Grinzegal, c'est une rencontre de territoire, une rencontre qui vient et qui arrive sur le territoire de Guingamp, qui trouve ici un vrai lieu pour s'exprimer, parce qu'il y a une place des scolaires qui est très conséquente, et parce qu'il y a aussi, je le dis, dans la construction qu'on peut avoir, stratégie de la politique de la ville de Guingamp, on était connu pour le sport, C'était évident, l'en avant de Guingamp, mais j'ai toujours considéré qu'il fallait plutôt se porter sur plusieurs piliers. On en a parlé, la question du patrimoine en est un, c'est de donner une vraie lecture du patrimoine. Et puis, un des points qui me semble essentiel également dans les fonctions de centralité et qui sont intimement liées dans son histoire, c'est la dimension de la place de la culture. Et la place de la culture, c'est un terrain d'émotion, c'est un terrain de compréhension, c'est un terrain de médiation, c'est un terrain, en fin de compte, qui vient en vraiment compléter ce qu'est des fonctions de ville-centre. Donc, un centre d'art visuel, Gwynségal, qui notamment à l'époque était porté par Paul Cotin, qui avait déjà développé un réseau international, avait aussi permis d'avoir cette ouverture vers l'extérieur, ben, c'était quelque chose qui semblait complètement rentrer dans le cadre de ce que pouvait être la prison dans ses fonctions de demain. Donc la fonction affichée de se dire, en plus de restaurer cette prison, on y mettra un centre d'art visuel, parce que quelqu'un, un touriste, un visiteur qui arrivera dans la prison, ne sera pas surpris de se dire, tiens, au-delà du cadre, il y a aussi la possibilité d'une visite sur l'image et sur la photographie.
Et avant même donc, que le centre d'art ouvre en 2019, à partir de 2017, dans l'ombre, un projet se prépare. Un projet avec alignement de planètes. Vous pourriez nous raconter un petit peu comment la presse a titré, comment c'est devenu possible. Et de quoi parle-t-on ?
Bon, effectivement, on parle de l'INSEAC, Institut National supérieur de l'enseignement artistique et culturel, ou de l'éducation artistique et culturelle. C'est toujours une histoire qui, à mon avis, est très singulière, particulière, mais qui l'est comme toutes les belles histoires, j'ai envie de dire. La première note a été donnée par Emmanuel Etis, qui avait, au vu d'un diagnostic pertinent, bien mis en lumière qu'il y avait le monde artistique, le monde de la culture, et que parallèlement, il y avait le monde scolaire, et que s'il y avait des tentatives de connexion, s'il y avait des expérimentations effectivement menées, il n'y avait pas ce tissage. Et cette imbrication, elle était beaucoup moins forte, moins prégnante qu'on ne pouvait le penser. Et c'était effectivement la magie de vouloir relier ces deux vecteurs pour se dire, là, on crée quelque part un nœud de dynamisme. Ça, c'était là, je pense, l'idée de départ. Et une fois qu'il y a eu cette rencontre avec Emmanuel, il y avait, nous, ce site de la prison. Et je pense qu'une des premières... Une des premières forces, ça a été de croire à cette histoire. Ça a été de croire à cette histoire et de se dire, oui, il y a là un vrai modèle, il y a quelque chose qui est à explorer, qui raconte une vraie nouveauté, une vraie innovation. Et j'irai même un peu plus loin, qui peut raconter demain une vraie mise en place ou quelque part une vraie remise en place de ce qu'est l'innovation dans la culture française. Et à travers ça, on s'est dit convaincu. Et ensuite, on s'est dit, ben, il va falloir faire en sorte que ce projet puisse se dérouler sur Guingamp et puisse s'inscrire dans la prison. Et puis, donc, il y avait effectivement un président du conseil départemental, Alain Cadec, qui a énormément cru au projet parce que il avait cette envie de pouvoir inscrire sur le territoire de la formation supérieure. Et ce que racontait l'histoire de l'INSEAC, c'était des chercheurs qui venaient s'installer, qui allaient créer un living lab dans un environnement qui était déjà très fort, où il y avait une émergence culturelle vivace. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Alain Cadec aussi a porté de manière assez vraiment forte ce projet. Donc une municipalité, un président du département qui était effectivement inscrit là-dedans, et puis un troisième vecteur qui n'a pas été anodin non plus, Jean-Michel Le Boulanger, qui était quelqu'un qui était très convaincu, en fin de compte, par la place de la culture, par cette culture populaire, par cette culture aussi qui doit se faire sur les territoires. Et à travers ça, on se retrouve avec Emmanuel Etis, avec moi, avec le président de l'agglomération qui nous avait rejoint, avec Alain Cadec et avec Jean-Michel Le Boulanger de la région, qui était bien entendu validé par Loïc Chesnais-Gérard, à rencontrer Franck Riester. Et de dire... Voilà, ça c'est un projet qui raconte une vraie et une nouvelle histoire, en fin de compte, à la fois dans l'enseignement et dans la question de, sur la question de la culture. Et puis ensuite, on ne va pas se cacher, donc on avait là des gens qui étaient tous convaincus par ce projet et qui ont tous exercé, les uns et les autres, à leur niveau, un vrai lobbying pour aller convaincre. Mais pour aller convaincre, pas forcément pour dire « il faut que ça vienne chez moi » ou « faites quelque chose chez moi parce qu'il n'y a rien ». Non, l'idée c'était cette histoire de projet est en vraie cohérence avec une volonté de territoire, avec une vraie opportunité pour nous de s'inscrire réellement dans ce défi à relever.
Et donc d'autres villes comme Cannes, Poitiers, Dijon, voire même Paris donc, sont passés en second plan et Guingamp est devenue la capitale de l'éducation artistique et culturelle, a pu dire Madame Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, au mois de juin 2020.
Oui, alors Guingamp a été choisi, effectivement. Le projet d'intégrer cette prison venait aussi conforter cette histoire sur la culture, sur l'enseignement artistique et culturel. Et j'ai envie de dire que le fait que ça vienne sur les territoires était aussi une très belle histoire. Et j'appellerais pas, moi, le pôle de capitale, parce que qui dit capitale dit déjà, hein, quelque part, hiérarchisation, mais véritablement le pôle de création, le pôle d'émergence sur cette question de l'enseignement artistique et culturel. Et pour nous, c'est une véritable opportunité de montrer aussi que les territoires, que les petites villes sont capables de porter des projets d'ampleur qui peuvent réellement irradier, qui peuvent infuser au niveau national. Et je l'espère, parce que je le dis là de manière tout à fait spontanée, je pense également qu'au-delà de la question nationale, il y aura réellement, à mon avis, la possibilité d'avoir un rayonnement international à travers un projet comme celui-là, parce qu'il va raconter une vraie histoire française de ce que peut être l'enseignement artistique et culturel.
Donc une prison, un centre d'art, un institut national, tout ça dans une ville qui a candidaté à un objectif politique de faire que toute la population scolaire soit touchée à 100% par des actions profondes d'éducation artistique et culturelle.
Ça allait effectivement de pair, c'est-à-dire que au-delà du modèle, au-delà de la conception, de se dire que elle n'a de raison d'être que parce qu'elle est courroie de transmission pour les jeunes et pour effectivement cette éducation artistique et culturelle pour ceux qui en sont l'objet, les enfants. Donc ça allait de soi. Qu'on se dise, on fait de cette ville de Guingamp un vrai terrain d'expérimentation, parce que, tout d'abord, on y croit. On y croit pourquoi ? Parce que, au-delà de ce que peut révéler la culture, ce que peut permettre la culture, je crois que c'est un vrai levier de développement pour les enfants, pour les jeunes. C'est penser un peu le phénomène ou l'éducation autrement, en se disant que le terrain de l'émotion est le champ, quelque part, qui permet de rentrer en conjugaison avec les jeunes, avec les élèves. Et à partir de ça, on a aussi la possibilité, et notamment grâce à l'artiste, qui a une place, bien entendu, prégnante, la possibilité de se dire que c'est, à travers l'œuvre d'art, une forme d'espoir, une forme d'empathie, une forme de, effectivement, vivre des défis qui sont autres, connaître, explorer des champs que l'on n'imagine pas, et s'ouvrir les yeux, tout simplement. Et puis, c'est passer, effectivement, je le redis, par l'émotion, peut-être oublier le vocabulaire, et parler de ce qu'on ressent. Et c'est tout ça qui fait qu'on a composé, sur une ville comme Guingamp, aux différentes strates, cette volonté de mettre l'artiste et son enseignement, et ce qu'il veut donner comme message, au cœur d'un process d'éducation. Donc, ça s'est fait de manière, certes volontaire, mais j'ai envie de dire tout à fait naturelle, parce que je trouve que, et je suis persuadé que beaucoup des pédagogues, des enseignants, sont convaincus intimement de ce moyen, de cette liaison, en fin de compte, de faire émerger une évolution de leur élève grâce à des éléments artistiques, parce que ça leur parle. Donc, une ville 100% EAC, parce qu'à la fois un défi politique, mais la capacité de fédérer, de conjuguer, de mettre en cohérence l'ensemble des efforts qui étaient faits par ailleurs sur le territoire. Et on avait déjà des outils qui s'étaient portés sur la médiation culturelle, un service culturel qui était très prégnant sur le spectacle vivant, un centre art d'art visuel donc, qu'on a cité, Gwynségal, qui faisait de la médiation dans les écoles, une médiathèque, un certain nombre, bien entendu, 7000 élèves qui étaient sur le territoire. Cette volonté d'aller vers le 100% EAC, qui reste, j'ai envie de dire, une vraie utopie, une vraie quête continuelle, parce que le 100%, c'est plus qu'une une volonté, plus qu'un chiffre. Et puis, c'était aussi la possibilité, à travers ça, de faire vivre et de révéler un écosystème qui était déjà très présent sur le territoire. C'était faire converger tous ces acteurs et, quelque part, mettre aussi en harmonie ce qui existait. Le patrimoine qu'on a pu évoquer, mais également le travail qui était fait par le service culturel au travers du spectacle vivant, de la médiation, de Gwynségal qui travaillait effectivement sur la question de l'image, de Tillarro qui était un vrai vecteur aussi de la culture bretonne, et puis avec des partenaires comme la Saint-Loup, de la question de la danse. La Saint-Loup, c'est le festival de la danse, mais on a aussi des espaces comme le lieu, qui sont des espaces reconnus dans la danse contemporaine. C'était, au travers de ça, effectivement, conjuguer, mettre en harmonie tous ces partenaires pour les faire rentrer dans une mission commune, celle de dispenser cette force aux revues pour une nouvelle génération. Et l'INSEAC est ce faisceau de recoupement qui a permis à la fois de donner une ambition encore plus forte et puis qui met en lumière la possibilité d'objectiver tout ça et de raconter pour demain, à mon avis, une nouvelle histoire de cet enseignement artistique culturel qui sera rock'n'roll, qui sera traditionnel, qui sera dansé, qui sera de l'image, mais qui pourra toucher peut-être et certainement d'autant mieux les publics de demain.